L'Assemblée de Dieu par André Gibert. Première partie. Principe du rassemblement chrétien. Que faire dans l'état présent des choses? Les différentes catégories de groupements chrétiens. Les groupements de la chrétienté actuelle pourraient se répartir en trois catégories. Les deux premières comprennent tout ce qui se dénomme officiellement Église. Ce sont des sociétés organisées avec des lois et des règlements, chacune avec son clergé distinct des simples fidèles. Il en est effectivement de deux sortes. Premièrement, Église d'affirmation catholique. L'Église romaine affirme être l'Église, la seule, et elle monopolise le titre de catholique, c'est-à-dire universel. Mais à des degrés divers, la même revendication est celle des grandes églises orientales qui ne reconnaissent pas le pape romain. En dehors sont les hérétiques. Tout au plus, admettons que s'ils sont de bonne foi, ils participent à l'âme de l'Église, mais on leur refuse de faire partie de son corps. Ces églises d'affirmation catholique entendent former, seules, toute l'Église chrétienne, et les égarés doivent revenir à elle. Elles affirment en effet, et ceci est capital, qu'il est nécessaire à chaque individu d'avoir recours à elles pour obtenir le salut. L'administration de leurs sacrements dispense la grâce divine, et il faut pour cela un clergé, investi d'un pouvoir surnaturel qui est transmis depuis les apôtres par ordination. Il n'est pas question d'exposer ici leur doctrine, encore moins de soulever des controverses. Nous n'aurions pas beaucoup de peine à constater que cette unité si hautement affirmée recouvre en réalité une multiplicité extrême d'interprétations et de formes. Mais, par-dessus tout, relevons que l'enseignement de l'Écriture ne considère nullement l'Église comme un organisme assurant le salut, mais comme un organisme formé par des sauvés, ce qui est foncièrement différent. Deuxièmement, Église partielle. Les autres Églises sont des organisations religieuses qui se sont séparées des précédentes, surtout depuis la Réformation, pour constituer des églises indépendantes, expressément partielles, distinctes du reste de la chrétienté. Qu'elles soient nationales ou non, ne changent rien à leurs principes. Elles reconnaissent, pour la plupart, ce que l'on appelle l'Église invisible, bâtie par Christ et dont Dieu seul connaît tous les membres, mais elles se considèrent comme des sociétés nécessaires, établies au mieux selon les époques et les pays, pour grouper des adeptes en plus grand nombre possible, les enseigner et les amener à célébrer des offices religieux. Leur base de rassemblement est telle ou telle confession de foi particulière. Les fidèles sont inscrits sur des registres. On peut dire que ces églises consacre le morcellement. Chacune vit à part, tout en reconnaissant des chrétiens vrais en dehors d'elle. Quelle que soit la marche individuelle de leurs prêtres, de leurs pasteurs ou des fidèles, marche souvent intègre, le principe ecclésiastique, celui du système, nie en fait l'unité de tous les chrétiens. Les deux catégories que nous venons d'évoquer, l'une prétendant à l'unité, l'autre la brisant, mêlent dans leur rang des chrétiens véritables et des professants. Le baptême a valeur d'introduction dans la chrétienté, et la première communion introduit effectivement dans une église déterminée. Troisièmement, hors du camp. La troisième catégorie est formée par les rassemblements, beaucoup moins nombreux, de chrétiens sortis des deux premières pour se réunir selon les enseignements de la parole, sans clergé ni règlement particulier, mais au nom du Seigneur Jésus. Il est probable qu'il y en a eu de tout temps, Mais lorsque l'Esprit de Dieu a soufflé pour réveiller l'Église, voici plus d'un siècle, au sentiment de la venue prochaine de l'Époux, nombre d'âmes ont été amenées à se poser la question « Où est l'Église dans la confusion présente ?» et ont été conduites à sortir vers Christ, hors de tout camp ecclésiastique. Malheureusement, là aussi l'ennemi a été actif, et il a réussi à semer tant de troubles et à mener tant de divisions qu'au bout de 4 générations nous baissons la tête, le cœur oppressé. Bien des âmes sincères se demandent « Que faire ? Où est le sentier ?» Et pourtant, soyons-en sûrs, il y a toujours un sentier, celui que l'œil n'a pas vu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, mais que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Une chimère, le retour de la chrétienté à l'état du début. Que faire ? Il ne saurait être question de rebâtir l'Église du début des actes. La chose est impossible. C'est un fait général dans toute l'Écriture que Dieu ne restaure pas intégralement ce que l'homme a ruiné. Il donne quelque chose de meilleur pour remplacer l'état de choses qui est mis de côté après avoir été supporté avec la plus longue patience. Dieu supporte encore la chrétienté et nous avons à aller avec les ressources et les directions qu'il fournit, non à rêver d'une restauration qui contredirait l'enseignement même des apôtres, comme cela a été rappelé plus haut. Du reste, il nous manquerait les éléments capitaux d'alors, les apôtres, et les signes qui accompagnaient leur prédication. Les apôtres ont posé le fondement. Ils ont accompli leur tâche, ils n'ont pas été remplacés, il n'en a jamais été question. C'était à l'Église à être fidèle. Il est ainsi des choses qui ne reviendront pas. Quand nous disons que nous nous réunissons comme les premiers chrétiens, cela ne peut pas être entièrement juste. Ce qui demeure. Et ce que les croyants d'aujourd'hui ont à faire, tout comme les premiers chrétiens, c'est d'obéir à la parole, celle même que les apôtres disparus depuis longtemps ont laissée après l'avoir transmise fidèlement selon l'inspiration qu'ils avaient reçue. Le fondement qu'ils ont posé est immuable, et il faut nous placer sur ce fondement, savoir Christ lui-même, le Christ des évangiles et des épîtres, et non sur le fondement de pensées humaines, de doctrines théologiques ou de systèmes philosophiques. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Dieu n'a point cessé de travailler, Christ continue à bâtir, et la maison spirituelle de 1 Pierre 2, verset 5, continue à s'édifier dans sa perfection.
1 Pierre 2, verset 5, « Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. »
Et à mesure, la maison visible sur la terre est confiée à la responsabilité de l'homme. 1 Corinthiens 3, verset 12.
« Or si quelqu'un édifie sur ce fondement, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu, et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. »
Que nous le voulions ou non, chrétiens, nous édifions dessus. Prenons garde, comment nous édifions? Avec quels matériaux? Quelle direction? Quelle force? Qu'est-ce qui, de notre travail, supportera l'épreuve du feu? Nous découragerions-nous devant ce qui est demandé de nous? Mais souvenons-nous que nous avons toujours à notre disposition les 3 grandes ressources permanentes. La personne de Jésus, centre de rassemblement, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, esprit d'amour, de puissance et de conseil, de Timothée 1, verset 7.
Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil.
On a souvent rappelé qu'Agé est venu encourager les fidèles à rebâtir la maison de l'Éternel, non point certes identique à celle de Salomon, mais avec l'autel sur le même emplacement, en leur disant « Soyez forts, car je suis avec vous, et la parole et mon esprit demeurent au milieu de vous » Actes 2, versets 4 et 5. Combien plus demeurent-ils avec les chrétiens qui veulent obéir? Ces divines présences sont là comme au premier jour et ne manqueront pas tant que l'Église sera sur la terre. Soyez forts et bâtissez. Les caractéristiques permanentes d'une assemblée de Dieu. En ce qui concerne le rassemblement, il nous est prescrit de ne point l'abandonner, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Hébreux 10, verset 25.
N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher.
Nous ne saurions prétendre refaire l'Église ou être l'Église, mais il nous appartient d'être convaincus de ce que dans tous les temps le Seigneur a demandé à l'Église, savoir les fonctions dont il a été question plus haut et des privilèges qu'il lui confère. Bien qu'elle n'ait pas rempli fidèlement la mission qui lui était confiée, elle n'a pas été relevée de cette mission, glorifier Christ, témoigner de l'unité que Christ a faite, attendre le Seigneur. Pour qu'une réunion de deux ou trois au nom du Seigneur porte bien les traits de l'assemblée de Dieu, il faut que chacun de ces deux ou trois soit individuellement pénétré de ce que le Seigneur demande à cet effet. Si elle ne les porte pas, pourquoi se réunir? Mais si elle les porte, alors cette assemblée de Dieu qui est devenue invisible en sa totalité par la faute des hommes sera rendue visible là où ces deux ou trois sont réunis. Ce rassemblement est une assemblée de Dieu. L'important n'est pas le nombre de gens réunis, mais les caractères de leur rassemblement. Ce n'est pas une question de quantité, mais d'esprit. À quel caractère, donc, un rassemblement peut-il et doit-il être reconnu comme assemblée de Dieu? Il semble qu'on puisse résumer ainsi ceux qui sont indispensables. Premièrement, il doit être composé de croyants. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18.
Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliard? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant.
Deuxièmement, se réunir au nom du Seigneur Jésus, Matthieu 18. Troisièmement, reconnaître la seule autorité du Seigneur, Apocalypse 1. Quatrièmement, ne reconnaître d'autre direction que celle du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 11.
Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît.
Cinquièmement, être soumise à l'enseignement de la parole pleinement reçue. Sixièmement, ne pas tolérer sciemment que le nom du Seigneur soit associé au mal. 1 Corinthiens 5, versets 5 à 9.
J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Votre vanterie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs.
2 Timothée chapitre 2. De tels caractères ne seront maintenus que si les cœurs sont remplis de cet amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1 verset 5. Ils ne sauraient être seulement extérieurs. Prise de position que ces caractères entraînent. Ils impliquent une prise de position qui ne peut manquer d'être mal comprise et mal jugée par les autres chrétiens. Elle n'a de valeur que si elle est dictée par l'obéissance, dans l'humilité et dans un profond amour pour l'Église entière. Cette position se trouve nécessairement en dehors des deux premières catégories ecclésiastiques que nous avons considérées, puisque l'une prétend à tort monopoliser l'Église et que l'autre la fractionne délibérément. Or, il s'agit à la fois d'exprimer l'unité de l'Église entière et de se séparer de ce qui, pourtant, renferme encore des membres du corps de Christ. Le principe d'un tel rassemblement étant celui de l'unité du corps, le seul qui puisse se réclamer de la parole, l'expression de cette unité est donnée à la table du Seigneur, selon 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17.
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain.
On y participe à un seul pain parce que tous les croyants sont un seul pain, un seul corps. Que tous soient effectivement présents ou non, n'enlève rien au privilège de ceux qui sont là de penser à tous. La table du Seigneur n'appartient point à ceux qui l'entourent réellement, mais elle est dressée pour tous, si vraiment c'est le Seigneur qui l'a dressée. Sinon, devenue la table d'une secte ou d'une confession particulière, elle serait négatrice de l'unité du corps. Tous devraient être là, et ceux qui s'y trouvent devraient ressentir douloureusement le vide des places de ceux qui ne s'y trouvent pas. Quand nous parlons d'un converti qui demande sa place, l'expression est très juste, alors qu'on n'est pas fondé à dire que l'on fait partie de telle ou telle assemblée, en entendant par là un groupe indépendant des autres assemblées locales. Nous ne mettons pas en doute que beaucoup de chrétiens jouissent de la scène comme mémorial de la mort du Seigneur en quelque confession qu'elle soit célébrée. Mais la table du Seigneur ne peut être dressée que sur la base de l'unité du corps de Christ, dont tous les enfants de Dieu sont membres au même titre. Il suit de là aussi que les rassemblements formés en des lieux divers, où la table est dressée sur ce principe, sont solidaires, parce que placés dans la même communion du corps et du sang de Christ. Chacun est l'expression de l'assemblée locale elle-même incluse dans la grande unité de l'assemblée universelle. L'apôtre s'adressait à l'assemblée à Corinthe, à Éphèse, en parlant comme à l'assemblée de Dieu tout entière. L'assemblée est tenue de préserver la table du Seigneur de la souillure. Elle a pour cela l'autorité du Seigneur. Elle l'exerce parce qu'il est là. Et s'il n'était pas là, elle ne serait pas l'assemblée. Alors, dira-t-on, vous prétendez être un rassemblement de gens parfaits dans la pratique ? Non, certes, hélas. Mais selon l'enseignement de 1 Corinthiens 11, versets 28 à 34, ceux qui s'approchent de la table du Seigneur sont tenus de se juger eux-mêmes, et l'assemblée a la responsabilité d'ôter le vieux levain lorsque, quelqu'un ayant négligé ce jugement individuel, un état de péché est manifesté et subsiste malgré les avertissements et la discipline fraternelle.
1 Corinthiens 11, versets 28 à 34. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous.
Il ne s'agit pas d'exercer un droit quelconque à juger, quelle tristesse ce serait, mais de rendre au Seigneur ce qui lui est dû, dans le souci de l'honneur de son nom et celui du bien de son assemblée. D'autre part, le même principe de l'unité du corps qui implique que ce que l'assemblée fait dans une localité est valable partout, empêche que l'on puisse reconnaître des rassemblements où cette discipline n'est pas observée et où un mal moral ou doctrinal est toléré expressément. Là est la source des divisions qui se sont produites parmi ceux qui s'étaient initialement groupés en dehors des systèmes religieux. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. Sans doute, nous manquons vite de patience et de support. Nous risquons sans cesse de substituer nos vues personnelles à la pensée du Seigneur et de laisser agir notre propre volonté. Mais lui ne saurait supporter que l'on associe au mal son nom attaché à sa table. Pour résumer, premièrement, si nous ne voulons pas être une secte, nous devons ne jamais perdre de vue l'unité du corps de Christ proclamée à la table du Seigneur et, tout en portant le deuil de l'état actuel de la chrétienté, à laquelle nous appartenons, ne l'oublions pas, nous avons à saisir avec reconnaissance les prérogatives qui restent jusqu'au bout attachées à l'Église selon Dieu. Deuxièmement, si nous ne voulons pas être coupables à l'égard du corps et du sang du Seigneur, nous devons veiller dans le jugement individuel et collectif afin que la communion avec lui et entre nous soit maintenue avec vérité. C'est cela, garder l'unité de l'esprit. Qui est suffisant pour ces choses? Le secret est dans des cœurs dévoués aux intérêts du Seigneur, aimant ceux qui sont à lui. Il est dans l'humilité d'esprit et la fidélité dans tous les domaines. Le témoignage que le Seigneur avait suscité pour les derniers jours est en déclin, comme tout le reste. Lui aura été le seul témoin fidèle et véritable. Mais les promesses faites à Philadelphie subsistent. Demandons, et cela nous sera accordé, l'état d'esprit et de cœur de celui à qui le Seigneur peut dire « Tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom ».